Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la transition écologique. Je suis Guillaume. Je suis accompagné aujourd'hui d'Eugénie et de Louise. Nous sommes tous les trois élèves administratrices et administrateurs territoriaux, membres du groupe thématique environnement. Ce groupe réunit une trentaine d'élèves de l'INET, Institut National des Études Territoriales, particulièrement intéressés par les questions de transition écologique et qui se sont investis dans cette thématique au cours de leur formation. Avec le groupe, nous avons souhaité faire ce podcast pour montrer que les élus locaux et agents territoriaux ont beaucoup de moyens d'agir en faveur de la transition écologique, même si ceux-ci ne sont pas toujours bien connus. Aujourd'hui, nous portons le focus sur l'échelon le plus récent et le plus étendu en termes géographiques, les régions. Les 18 régions françaises, de métropole et d'outre-mer, exercent des compétences clés en matière de transition écologique. Nous allons en évoquer quelques-unes avec Eugénie et Louise. Le développement économique, les transports, l'agriculture et l'alimentation, la protection de la biodiversité, la gestion et la protection de la ressource en eau, et enfin l'air et l'énergie. Commençons donc par le développement économique et la planification. Eugénie, en quoi cette compétence est en lien avec la transition écologique ?
En effet, Guillaume, cette compétence, clé pour les régions, l'est aussi en matière de transition écologique. Pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en France, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de 5% par an. Cela implique une transformation de tous les secteurs d'activité, le développement de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. L'industrie est le premier secteur économique concerné puisqu'il représente 20% des émissions territoriales françaises et 10% du PIB et de l'emploi. La transition écologique concerne néanmoins tous les secteurs économiques et elle a plusieurs leviers. La sobriété, les ruptures technologiques, le progrès continu. Les régions peuvent justement, à l'échelle de leur territoire, avoir une réelle influence sur ces trois leviers, même si elles demeurent des acteurs secondaires par rapport au secteur privé. En effet, elles interviennent dans le champ du développement économique, un champ large qui englobe tous les moyens qu'ont les acteurs publics pour favoriser la croissance soutenable, l'emploi et l'innovation sur leur territoire. La compétence développement économique est une compétence partenariale. Les régions doivent nouer des partenariats et travailler avec les autres collectivités et l'État, les entreprises et les filières, les fédérations professionnelles ou les chambres consulaires.
Dans ce contexte partenarial, les régions sont chefs de file en matière de développement économique. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que le développement économique est un domaine d'intervention historique des régions et de leurs ancêtres, les établissements publics régionaux. Dans ce champ, elles ont donc une expertise et une reconnaissance établie de longue date, qui a été consacrée par la loi NOTRe de 2015. Cela signifie que la région intervient sous deux angles. D'une part, elle a des outils propres, et d'autre part, il lui revient de coordonner les stratégies de développement économique sur son territoire via sa compétence en matière de planification.
Quels sont justement les documents de planification qu'élaborent les régions ?
Les régions doivent élaborer deux principaux documents de planification. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le premier définit les orientations régionales pour l'aide aux entreprises et le développement de l'économie sociale et solidaire et veille à la complémentarité avec les collectivités territoriales. Le second concerne notamment les transports, la lutte contre le changement climatique, la gestion des déchets ou la gestion des sols.
En quoi ces documents de planification sont un outil de transition écologique ?
Ces documents affirment les priorités stratégiques régionales. Par exemple, l'actuelle Sraddet de la région Hauts-de-France, votée en 2020, prévoit de grands objectifs comme le positionnement de hubs logistiques ou encore la garantie d'un système de transport fiable et attractif. Les documents de planification régionaux restent donc des documents très généraux qui, en pratique, ne sont pas très contraignants pour les collectivités du territoire. Néanmoins, ils permettent de réaliser un travail de diagnostic et de prospective qui intègre donc la question écologique. En effet, la loi Climat et Résilience de 2022 prévoit que le SR2I identifie les secteurs et bassins d'emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. La nécessité de la transition écologique est davantage prise en compte dans les SR2I en cours d'élaboration. Pour 2022 et 2028, Celui de la Nouvelle-Aquitaine prévoit par exemple de soutenir la transition énergétique et la décarbonation des entreprises.
Et concrètement, de quels outils disposent les régions pour développer l'économie de leur territoire tout en favorisant la transition écologique ?
Régions et intercommunalités sont les deux échelons de collectivités qui disposent des outils concrets du développement économique, depuis que la loi NOTRe a fortement diminué celle des départements. Justement, les régions peuvent accorder des aides aux entreprises, comme l'aide à la création ou l'aide aux entreprises en difficulté, sous forme de prêts, de subventions, d'avances remboursables ou de prises de participation. Dans le cadre de cette compétence, les régions peuvent définir des filières ou secteurs d'activité qu'elles souhaitent plus particulièrement soutenir en vue de la transition écologique. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine soutient la structuration d'une filière de valorisation des textiles recyclés. La région Île-de-France, elle, a développé plusieurs aides pour améliorer la performance énergétique des entreprises, comme celles aux petites entreprises pour acheter des véhicules professionnels propres, ou alors l'aide au financement des études de faisabilité des projets d'énergie renouvelable.
Les régions peuvent également mobiliser leurs satellites, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Les régions peuvent également intervenir par le biais des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales. Ces structures sont des sociétés de droit privé à actionnaires publics et privés pour les SEM et uniquement publics pour les SPL, qui sont un outil récent mais en plein essor. Les régions peuvent donc être actionnaires d'une SEM ou d'une SPL intervenant dans le champ de la transition écologique. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes est actionnaire majoritaire d'une SPL qui réalise des travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics.
Enfin, certaines régions innovent dans le domaine du financement de la transition. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui. Par exemple, la région Pays de la Loire a développé avec la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne un livret d'épargne vert proposé aux habitants. Celui-ci doit financer uniquement des projets favorables à la transition écologique. Mais certaines régions s'engagent également dans la finance verte, notamment via les obligations vertes. Ce sont des emprunts émis sur les marchés financiers par les régions et qui doivent financer des projets contribuant au développement durable. Les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie, Pays de la Loire émettent des obligations vertes et parmi elles, la région Île-de-France a déjà été primée comme meilleur émetteur d'obligations durables en France.
Merci pour ces éléments et ces exemples. Venons-en maintenant à une compétence particulièrement visible des régions, les transports. Louise, en quoi cette politique est au cœur des enjeux de transition écologique ?
D'après le Shift Project, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France, avec 31% des émissions en 2018. Les mobilités sont donc un sujet primordial pour la transition écologique et les acteurs publics y ont un rôle particulièrement important. Si aujourd'hui 87% des émissions du secteur des transports sont dues aux voitures, c'est parce que les politiques publiques ont façonné le territoire autour de l'usage de la voiture. Construction de rocades, de zones commerciales en périphérie des villes, fort investissement dans le réseau routier et autoroutier, alors que le développement des transports collectifs de proximité a été davantage délaissé. Ce système voiture, pour reprendre l'appellation de l'urbaniste Peter Hall, est entretenu par une multitude de facteurs qui interagissent et les collectivités seules n'ont pas tous les leviers pour en sortir. Néanmoins, les régions ont une réelle capacité d'action en ce domaine. Elles peuvent à la fois travailler sur les moyens de transport et sur les causes des déplacements.
Précisément, à propos de cette capacité d'action dont vous parlez, que peuvent faire les régions pour participer à la transition écologique du secteur des transports ?
La décarbonation du secteur des mobilités passe par trois choses. Favoriser l'usage des moyens de transport moins émetteurs, réduire la fréquence, la durée et la longueur des trajets, et innover et développer des moyens de transport peu polluants. Les régions peuvent agir sur ces trois axes. Elles ont également un grand rôle à jouer dans l'aménagement du territoire grâce à leurs compétences en matière de développement économique, de formation professionnelle et de planification globale. Or, ce rôle est clé pour participer à la décarbonation des transports. On ne peut pas demander aux citoyens de renoncer à la voiture s'ils travaillent à 50 km de chez eux et qu'il leur faut 1h30 pour parcourir ce trajet en train. Par exemple, une région dispose de plusieurs moyens pour favoriser l'installation d'entreprises sur le territoire et ainsi faire en sorte que les habitants de ce territoire travaillent plus près de leur domicile.
Et sur le cadre juridique, quel est-il pour permettre aux régions d'agir dans ce domaine ?
Tout d'abord, depuis la loi SRU de 2000, les régions sont en charge de l'organisation et du financement des services ferroviaires régionaux, c'est-à-dire des TER. Concrètement, cela signifie que les conseils régionaux signent avec SNCF Voyageurs des contrats pluriannuels qui définissent l'organisation et le financement du service TER sur le territoire. S'appuyant sur l'expertise technique de la SNCF, la région définit la fréquence, les horaires, les arrêts, les tarifs payés par les voyageurs des TER. En 2018, le rapport sur l'avenir du transport ferroviaire remis au gouvernement préconisait de fermer certaines petites lignes de trains de proximité. En réponse, depuis quelques années, des régions se sont fortement saisies de leurs compétences ferroviaires pour en faire un vrai levier politique. Ainsi, la région Nouvelle-Aquitaine a rouvert la ligne Pau-Canfranc-Saragosse en dédiant un flux aux frais ferroviaires. En Occitanie, tous les TER sont à 1 euro pour tous les voyageurs le premier week-end de chaque mois et des billets à 1 euro sont en vente toute l'année pour certains trains. Autant de mesures fortes pour inciter les voyageurs à prendre le train plutôt que la voiture.
Plus largement, on parle de la compétence régionale en matière de transport interurbain. Qu'est-ce ?
Depuis la loi NOTRe de 2015, les régions sont les autorités organisatrices des transports interurbains ainsi que des transports scolaires interurbains. Il leur revient donc d'organiser et de financer ce service. Proposer des lignes de cars interurbains est positif pour la décarbonation, à condition que cela ne fasse pas concurrence à une ligne de train. La plupart du temps, cela se fait par délégation de services publics, et dans ce cadre, les régions peuvent obliger le délégataire à respecter des mesures en faveur de la transition écologique. Plus globalement, les régions coordonnent sur leur territoire les différents modes de transport, car elles sont désignées comme chefs de file de l'intermodalité. Au titre de leurs compétences, elles doivent faire en sorte qu'un voyageur souhaitant aller d'un point A à un point B en utilisant plusieurs modes de transport réduise l'usage de la voiture individuelle.
Sur ce sujet de l'intermodalité, que peuvent faire concrètement les régions ?
Développer une politique cohérente de transport en commun à l'échelle d'une région nécessite de penser à la complémentarité entre les différents moyens de transport, en proposant par exemple un billet unique, en développant des horaires coordonnés, des infrastructures adaptées. Sur ce sujet, la région Grand Est s'est fixé l'objectif d'installer un système de location de vélos dans les gares et d'augmenter la capacité de transport des vélos dans les trains. Autre exemple, depuis 2020, la région Île-de-France aménage en lien avec toutes les collectivités concernées un RER vélo. Il s'agit de pistes cyclables spécifiques pensées pour être complémentaires aux lignes de RER et ainsi désengorger ce moyen de transport. Pour faciliter l'utilisation de ces services complémentaires, les régions sont de plus en plus nombreuses à développer des outils numériques pour que les usagers puissent plus simplement calculer des itinéraires, acheter des billets, comme l'outil Destinéo, l'appli de la région Pays de la Loire, développée depuis 2006. Pour aller plus loin, certaines régions cherchent à s'inscrire dans une démarche de mobilité servicielle, en anglais Mobility as a Service. Dans cette vision, l'usager dispose d'un compte unique sur une seule application qui lui permet d'accéder à l'information, à l'achat, à la validation des titres de transport pour l'ensemble des moyens de transport d'un territoire. Si un tel outil semble être une évidence pour les citoyens, il nécessite une importante coordination entre tous les opérateurs des mobilités et son déploiement est donc progressif.
Parlons enfin du rôle des régions dans l'innovation pour des modes de transport plus écologiques. Que font-elles en la matière ?
Les régions ont effectivement d'importants leviers d'action en matière de développement économique, par des aides aux entreprises, des prêts, du financement en capital par exemple. Dans le secteur des transports, la région Hauts-de-France finance par exemple un projet de production de batteries qui doivent à terme remplacer les moteurs diesel des TER. Autre exemple, la région Sud aide les taxis à acheter des véhicules hybrides ou électriques.
Merci pour ces explications. Passons maintenant à une compétence bien différente, les actions en matière d'agriculture, d'alimentation, de forêt et de développement rural. Eugénie, pourquoi évoquer cette compétence ?
Pierre Rabhi disait « Pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée. » Dès lors, la transition agricole et alimentaire est essentielle dans le cadre de la transition écologique, autant pour la préservation des écosystèmes, des ressources naturelles, de la biodiversité et de la santé. Si en dehors de la France, tous les grands pays agricoles européens ont fait le choix de confier d'importantes responsabilités aux collectivités régionales en matière d'agriculture, de développement durable et de forêt, la région n'a pas de compétences exclusives en ce domaine. Elle peut tout de même agir pour concilier développement territorial et transition écologique.
Quels sont les enjeux pour les régions en matière de transition agricole et alimentaire ?
L'enjeu est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions classiques liés à l'agriculture, comme les pesticides, les nitrates ou les antibiotiques. Pour cela, elles peuvent développer des systèmes de production plus vertueux, permettant de stocker du carbone dans les sols et de préserver la biodiversité, en fournissant une alimentation saine, de bonne qualité, de proximité et à un prix accessible à tous.
Et pour ce faire, quel cadre juridique, en matière agricole, permet aux régions d'agir dans ce domaine ?
Les stratégies de la ferme à la table et biodiversité correspondant aux déclinaisons du Green Deal européen de la politique agricole commune sont intégrées dans les plans nationaux des États membres. Les régions peuvent donc soutenir cette transition via des pratiques d'agriculture biologique ou d'agroécologie, par le développement des circuits courts ou même via des observatoires régionaux de l'agriculture biologique. D'ailleurs, les régions se sont engagées dans la livre blanc pour une agriculture durable et une alimentation responsable.
Les régions se sont également beaucoup renforcées ces dernières années. Quel impact cela a-t-il eu ?
En effet, depuis 2014, les régions ont la gestion du FEDER, le Fonds européen agricole pour le développement durable. Elles peuvent, grâce à ce fonds, cofinancer des mesures et mettre en place des programmes de développement ruraux. Par exemple, la région Occitanie a mis en place une gouvernance régionale de la filière biologique. Elle accorde aux exploitants biologiques une majoration de 10% de ses aides classiques et majore la dotation jeunes agriculteurs pour ceux qui s'installent en bio. Depuis 2015, elles sont également devenues pilotes des politiques agricoles et de développement rural. Elles doivent intégrer dans le SRADET, dont nous avons parlé précédemment, un schéma régional de cohérence environnementale.
Au-delà de l'agriculture, en matière de forêt ou de bois, comment les régions agissent ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, face à son soutien à la Sylve Act, finance des projets sylvicoles territoriaux portés par les EPCI. Les actions soutenues visent à favoriser l'effet d'atténuation du changement climatique de la sylviculture, à préserver durablement les ressources forestières et à maintenir les services écosystémiques forestiers en valorisant la gestion durable des forêts.
Au-delà de la planification ou du foncier, et à l'heure des difficultés de transmission des exploitations liées au vieillissement des agriculteurs, la région peut-elle agir directement en faveur de ces derniers ?
Tout à fait. D'ailleurs, entre 2014 et 2020, les régions ont consacré 27% de leur budget dans le renouvellement des générations d'agriculteurs. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place un fonds de garantie pour faciliter l'accès aux prêts bancaires des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires engagées dans les démarches de transition. La région Bretagne, elle, accompagne l'installation, la conversion et la transmission d'exploitations optant pour des systèmes bio via le pass bio conversion. Ce pass permet d'appuyer l'agriculteur par un technicien agricole notamment.
En matière d'alimentation, on sait que depuis 2018, la loi Egalim a également mis en place un cadre juridique et des objectifs pour les projets alimentaires territoriaux et l'approvisionnement en restauration collective. Elle prévoit notamment l'objectif d'au moins 15% de surfaces cultivées en bio et au moins 20% de produits bio dans les menus. Concrètement, comment les régions peuvent s'emparer de cette politique ?
La région Grand Est, par exemple, a dessiné le dispositif lycée en transition et mis en place un programme pédagogique en faveur du développement durable dans les lycées. Les professeurs, volontaires, peuvent mener des projets éducatifs conçus par la région pour sensibiliser leurs élèves au bien manger, à la lutte anti-gaspillage et à la gestion des déchets.
Merci Eugénie. Évoquons une autre politique régionale importante avec Louise, la protection de la biodiversité. La France dispose d'un patrimoine naturel d'exception. Plus de 180 000 espèces sont recensées dans le pays, soit près de 10% des espèces connues sur la planète. Mais en même temps, un grand nombre des espèces est menacé d'extinction à cause de facteurs multiples. La France figure ainsi parmi les 10 pays qui abritent le plus grand nombre d'espèces mondialement menacées. Quelles sont les causes de cette érosion de la biodiversité ?
Les causes de cette érosion sont connues. Toutes résultent des activités humaines. Fragmentation des milieux naturels, surexploitation des espèces sauvages, changement climatique, pollution des sols, de l'air et de l'eau. Le mouvement d'artificialisation des milieux naturels et de terrains agricoles qui se poursuit. La responsabilité de la protection de la biodiversité repose sur des acteurs multiples, publics et privés, à l'échelle locale comme globale. En favorisant le développement d'activités industrielles et touristiques, en aménageant le territoire par la construction de bâtiments et d'infrastructures, en contribuant à l'extension de l'urbain, les collectivités ont leur part de responsabilité dans ces facteurs d'érosion de la biodiversité.
À ce sujet, que font les régions en faveur de la protection de la biodiversité ?
Si toutes les collectivités doivent aujourd'hui être exemplaires dans leurs actions qui ont des conséquences sur les espaces naturels, la protection de la biodiversité incombe plus particulièrement aux régions. En effet, la région est chef de file de la protection de la biodiversité depuis la loi MAPTAM de 2014. Chaque région développe sa propre stratégie régionale de la biodiversité, un cadre commun d'intervention destiné à être décliné par l'ensemble des acteurs engagés en faveur de la biodiversité sur le territoire régional. Cette stratégie s'appuie sur deux piliers. D'une part, le schéma régional de cohérence écologique, SRCE, document élaboré en partenariat avec l'État, qui présente un diagnostic de la biodiversité et ses interactions avec les activités humaines, et prévoit un plan d'action stratégique pour préserver et remettre en bon état les continuités écologiques à l'échelle régionale. Ces continuités écologiques constituent la trame verte et bleue qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. Ce schéma fait aujourd'hui partie du SRADET, le grand schéma d'aménagement du territoire élaboré par les régions. Deuxième pilier de la stratégie régionale de la biodiversité, c'est l'Agence régionale de la biodiversité qui est chargée de mettre en œuvre cette stratégie et de coordonner les initiatives locales.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ce que font les régions dans le cadre de leur stratégie régionale de la biodiversité ?
Les régions entreprennent des actions diverses selon les besoins de leur territoire. La région Occitanie, par exemple, met l'accent sur la prise en compte de l'impact de l'éclairage public sur la biodiversité. Elle a identifié une trame noire sur son territoire, c'est-à-dire un réseau écologique propice à la biodiversité nocturne. Les régions soutiennent largement les actions de recensement et d'inventaire répertoriant la biodiversité existante sur le territoire. Pour ce faire, la quasi-totalité des régions se sont dotées d'un observatoire régional de la biodiversité. Le financement par appel à projet est le mode d'intervention le plus courant en matière de protection de la biodiversité.
Quid des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles régionales ? Sont-ils réellement des outils efficaces à la main des régions pour protéger la biodiversité ?
Parcs et réserves naturelles sont des espaces dédiés à la protection et à la préservation de la biodiversité que les régions peuvent créer. Ils ont cependant chacun leur spécificité. Les réserves naturelles régionales sont des sites naturels protégés, terrestres ou maritimes, qui présentent un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou les milieux naturels. Les réserves naturelles ont un pouvoir de réglementation pour renforcer la protection de la biodiversité en leur sein. La région Grand Est, par exemple, a classé 27 réserves naturelles régionales représentatives des différents milieux naturels présents sur le territoire : forêts, prairies, pelouses sèches, marais, étangs. Les régions confient la gestion de chaque réserve à un ou plusieurs gestionnaires. Il peut s'agir de conservatoires d'espaces naturels, d'associations de protection de la nature ou de collectivités territoriales.
Et les parcs naturels régionaux ?
Les parcs naturels régionaux sont créés par les régions, mais classés par décret du Premier ministre pour une durée de 12 ans. Contrairement aux réserves naturelles, ils n'ont pas de pouvoir de réglementation, mais ils ont 5 missions plus larges que celles des réserves naturelles, telles que l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'accueil, l'éducation et l'information, l'expérimentation et l'innovation. La France compte 58 parcs naturels régionaux, c'est-à-dire 15% du territoire national. Par exemple, la région Sud en compte 9, tels que la Camargue, le Verdon ou le Mont Ventoux, qui sont des espaces qu'elle a identifiés comme étant fragiles, menacés par une trop forte pression urbaine ou une surfréquentation touristique. La région les finance à hauteur de 60% pour chaque parc. Chaque parc est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la charte du parc.
Merci pour vos illustrations. Évoquons maintenant, toujours avec vous, Louise, un sujet on ne peut plus d'actualité en ce printemps 2023, la gestion et la protection de la ressource en eau. Quelle est l'ampleur du problème ?
L'eau est une ressource à protéger quantitativement et qualitativement. Or, le constat est le suivant. L'augmentation de la population et des activités économiques conduit à une demande croissante en eau, que ce soit pour un usage agricole, touristique, pour refroidir les centrales nucléaires. Ces usages entraînent en retour des pressions sur les milieux aquatiques, une artificialisation des sols, des prélèvements excessifs en eau, des rejets polluants, comme l'illustre la pollution par les algues vertes sur certaines plages bretonnes. Si ces pressions ne sont pas suffisamment maîtrisées, elles peuvent altérer la quantité et la qualité de l'eau et restreindre en retour les usages de l'eau, comme on constate les effets de plus en plus alarmants chaque été. Nous sommes au printemps 2023. À cette période de l'année, les nappes phréatiques sont sous les normales avec 80% des niveaux modérément bas à très bas. Assèchement de certains fleuves et cours d'eau sur des périodes de plus en plus longues, réduction des débits d'étiage, appauvrissement des milieux aquatiques, le phénomène est de plus en plus préoccupant. Prenons l'exemple des zones humides. Protégées par la Convention de Ramsar de 1971, les zones humides abritent en France métropolitaine environ 25% de la biodiversité, or elles comptent parmi les habitats écologiques qui ont le plus régressé.
On sait qu'une gestion équilibrée des ressources en eau doit permettre un développement économique compatible avec un accès à une eau de qualité pour tous, tout en protégeant les milieux et la biodiversité. Quelle est l'échelle pertinente pour réunir les parties prenantes et effectuer la gestion de cette ressource ?
L'échelle pertinente pour mettre en œuvre la politique de gestion durable de l'eau est celle des bassins versants. La France métropolitaine compte 6 bassins versants. Parmi les plus connus, on trouve le bassin Loire-Bretagne ou alors le bassin Seine-Normandie. Ce sont sur ces territoires que peuvent s'observer les liens de dépendance entre amont et aval. Pour chaque bassin versant, deux instances sont chargées de gérer et de protéger les ressources en eau à l'échelle du bassin. Le comité de bassin d'une part, qui est une instance de concertation réunissant élus, usagers de l'eau et État, et d'autre part, l'agence de l'eau, qui est un organisme exécutif qui a un statut d'établissement public.
Parce que les bassins versants s'affranchissent des limites administratives, la politique de l'eau appelle une gouvernance complexe entre administrations, à même d'assurer une approche intégrée de la gestion de l'eau entre l'amont et l'aval que vous évoquiez. Que font les régions dans tout ça ?
Eh bien, les régions disposent de représentants dans les comités de bassin, ainsi qu'au conseil d'administration des agences de l'eau. La région a également un rôle d'appui technique et financier auprès des syndicats de bassins versants et des acteurs participant localement à la mise en œuvre des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. La région, enfin, finance des travaux de restauration d'espaces et d'écosystèmes aquatiques.
Mais encore, comment la région peut-elle jouer un rôle d'ensemblier dans la politique de l'eau ?
La loi NOTRe de 2015 a permis aux régions volontaires de prendre en charge l'animation et la concertation de la politique de l'eau lorsque l'état des eaux présente des enjeux sanitaires et environnementaux le justifiant. Chaque région développe sa propre stratégie selon les problématiques de son territoire. La région Pays de la Loire, par exemple, a adopté une stratégie Loire 2035 qui vise à restaurer dans son ensemble le fonctionnement de la Loire par des actions de restauration et d'animation avec ses partenaires tels que l'Agence de l'eau, le Conservatoire de l'espace naturel Pays de la Loire ou encore le Groupement d'intérêt public Loire-Estuaire. La région Occitanie, elle, s'est dotée d'un plan d'intervention régional de gestion intégrée de l'eau et s'appuie sur son propre réseau hydraulique régional pour alimenter aussi bien l'agriculture que les villes et le littoral durant la période estivale. Enfin, la concertation des parties prenantes est un élément central de leur stratégie. En région Bretagne, par exemple, l'Assemblée bretonne de l'eau réunit acteurs publics, acteurs économiques et sociétés civiles pour fédérer toutes les parties prenantes de la gestion de l'eau autour d'un plan d'action pour une Bretagne plus résiliente.
Merci. Terminons ce podcast avec Eugénie et notre dernier thème, l'air et l'énergie. Dans quel contexte s'insère cette politique publique ?
La qualité de l'air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers. Malgré une tendance à la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de concentration de polluants au cours des 20 dernières années, la France s'est fixé des objectifs de réduction. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée en 2015, fixe un objectif national de 10% de gaz renouvelables dans les consommations de gaz naturel à horizon 2030. Si ces objectifs ne sont pas territorialisés, chaque région a un potentiel différent, mais doivent participer au mieux à cette production. En parallèle, le projet de nouvelle stratégie nationale bas carbone réaffirme la volonté pour la France d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en agissant sur différents leviers, dont notamment la production de gaz naturel pour les véhicules, la gestion des effluents d'élevage ou le développement des énergies renouvelables. Dès lors, et surtout depuis 2014 en France, les régions sont devenues compétentes sur l'énergie et l'air et doivent elles aussi atteindre les objectifs nationaux ou se fixer des objectifs plus ambitieux.
Quel est justement le rôle des régions en matière de qualité de l'air ?
Les régions mettent des dispositifs en place pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Par exemple, la région Guadeloupe a développé le projet GuadAir pour participer à la mise en place d'un réseau de mesures de la qualité de l'air dans le cadre de la lutte contre les algues sargasses, qui, quand elles s'échouent sur les côtes, génèrent une pollution à l'hydrogène sulfuré et à l'ammoniac dans l'atmosphère. L'Observatoire peut informer en communiquant sur le niveau élevé et les risques associés. Dans le cadre de sa démarche « Changeons d'air en Île-de-France » en 2018, la région Île-de-France a, elle, mis en place un dispositif véhicule propre mettant l'accent sur le remplacement des véhicules anciens et polluants des artisans franciliens. Ce dispositif vise à favoriser le développement de véhicules utilitaires propres en Île-de-France pour les entreprises employant jusqu'à 50 salariés.
Et en matière d'énergie, quelles compétences détiennent les régions ?
Au niveau national, la loi MAPTAM de 2014 prévoit que la région est chargée d'organiser, en tant que chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités pour l'exercice des compétences relatives à l'énergie. Mais depuis la loi NOTRe de 2015, le SRADET fusionne plusieurs schémas existants relatifs à l'environnement afin de capitaliser sur les synergies que ces différentes politiques entretiennent entre elles, notamment concernant l'énergie, le schéma régional climat-air-énergie. D'autres documents stratégiques sont rédigés par la région, comme le programme régional pour l'efficacité énergétique, qui comporte un plan de déploiement des plateformes de la rénovation énergétique et un volet sur le financement énergétique des bâtiments. Mais également un schéma régional biomasse qui vise à satisfaire les besoins de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Comment les compétences énergétiques peuvent-elles être financées ?
Le programme Horizon Europe finance une mission d'adaptation au changement climatique qui propose une assistance technique aux régions et aux intercommunalités pour la réalisation d'évaluations des risques climatiques ainsi qu'une assistance financière pour le développement de solutions innovantes d'adaptation. De plus, les régions peuvent accélérer le développement des énergies renouvelables grâce au contrat de plan État-région. La région Bretagne a choisi, par exemple, de cibler ses financements sur l'accompagnement des filières marines renouvelables et sur le développement de solutions de stockage et de valorisation de l'énergie produite. La région Hauts-de-France, elle, a imposé à chacune de ses zones portuaires l'élaboration d'un schéma directeur des énergies afin notamment de développer des solutions d'avitaillement en carburant alternatif pour les navires. Enfin, la région Pays de la Loire a soutenu la réalisation du parc éolien du banc de Guérande, premier parc éolien marin en fonctionnement en France, et soutient actuellement le projet de parc des îles Dieu Noirmoutier.
Au-delà de ces actions, avez-vous un exemple de stratégie globale ?
Tout à fait. La région Occitanie a, par exemple, élaboré en 2016 sa démarche à énergie positive nommée REPOS, qui vise à équilibrer à horizon 2050 l'intégralité des consommations énergétiques avec des productions locales d'énergie renouvelable. Elle prévoit une division par deux des consommations énergétiques et une multiplication par trois des productions d'énergie renouvelable.
Les régions peuvent également mettre en place des outils de réflexion, n'est-ce pas ?
Tout à fait. C'est le cas du Haut Conseil breton pour le climat, qui regroupe des membres de la communauté scientifique bretonne et rend des avis consultatifs sur les politiques régionales menées face au changement climatique. Complémentaire du Conseil économique, social et environnemental régional, il a été pensé comme un outil d'aide à la décision pour les élus régionaux.
Certaines régions conventionnent avec d'autres collectivités. C'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui. La région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une convention qualité de l'air avec les intercommunalités de la région, qui permet à celle-ci de mener des actions spécifiquement nécessaires à ses besoins, comme par exemple un fonds air-bois pour renouveler le parc de chauffage de bois ou l'acquisition de véhicules propres.
Aujourd'hui, cette politique résonne d'autant plus que les prix du gaz et de l'électricité sont en forte hausse et que les risques d'approvisionnement sont de plus en plus présents. Comment les régions peuvent accompagner les acteurs pour changer leurs pratiques en matière de consommation énergétique ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, a mis en place un projet Zéro Émission Valais et soutient dans ce cadre le développement de la mobilité hydrogène sur la mobilité lourde, l'industrie ou l'énergie. Enfin, la région Nouvelle-Aquitaine, dont l'industrie représente 20% de la consommation énergétique, propose un contrat d'objectifs à chacune de ses entreprises d'amélioration de l'efficacité énergétique avec un engagement durable sur plusieurs années. Et d'ailleurs en cours de création, 100 unités de micro-méthanisation à la ferme pour limiter les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Merci Eugénie, merci Louise. Nous arrivons à la fin de ce podcast qui nous a permis d'explorer quelques-unes des nombreuses compétences régionales. Nous avons ainsi pu voir que les actions régionales en la matière font des régions des collectivités incontournables de la transition écologique. Ce podcast a été préparé par Priscille Darcourt, Eugénie Jamin-Mallet et Louise Juan. Il a été enregistré grâce à l'aide de Jean-Michel Carsouza, en charge de la web radio du CNFPT. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté et bonne journée.
Merci beaucoup Guillaume, au revoir.
Merci Guillaume, au revoir.